Eisinger, bonjour. Alors, très heureux de vous retrouver à Cannes. Vous êtes cette année membre du jury L'Œil d'Or 2025, présidé par Julie Gris. Nous allons y revenir. Qui concerne des documentaires, 14 que vous voyez, et qui concernent finalement toutes les sélections.
Ouais, tout à fait. Ils sont même parvenus à s'emparer de la quinzaine des cinéastes qui, historiquement, ne voulaient pas être dans un principe de compétition. Effectivement. Donc, on a l'occasion d'explorer un cinéma du réel, qui est une chose essentielle et qui mérite d'être rappelé au grand public.
Alors, je vous rappelais, donc, on s'est vu il y a 10 ans ici, quasi jour pour jour. C'était sur la plage du Majestic et on avait parlé du futur Spectre. Quel souvenir gardez-vous de cette aventure Bond End?
Ah ben, le souvenir est de plus en plus lointain, mais toujours aussi agréable. C'était une joie de me retrouver face à des artisans qui détenaient un tel savoir-faire et de travailler dans un contexte d'une telle ampleur. C'est très touchant.
2024, Augure, film qui a fait sensation, qui a permis pour vous d'avoir une nomination au César, qui a été nommé aux Oscars. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après du film de Balovi?
Alors, non, Augure m'a offert une nomination au Magritte. Moi, j'ai une nomination au César avec le film de Malick, et il a été prénommé, il a eu un shortlist des Oscars. Ça, tout à fait. Mais c'est comme dans beaucoup de films, il y a beaucoup de changements ou d'émulation, de répercussions plutôt, qu'on ignore, dont on découvre une fois qu'on est dans des collaborations qui suivent. Je pense que le phénomène réellement d'avant et d'après, ça se joue surtout sur la toute première exposition que j'ai pu avoir quand j'ai tourné pour cet unitaire pour Canal+, dans lequel je jouais Mobutu. Et certainement en faisant les films de Benoît Mariage, les Rayons des Zèbres, parce que là on passe d'une situation où il n'y a pas d'exposition conséquente dans le milieu du cinéma à une situation où
avec tous les projecteurs qui tombent dessus là. Vous êtes un fidèle des Dardenne. On avait quand même tourné, je crois, c'est 3 fois.
4 fois maintenant. Cette fois, c'était vraiment une petite participation, mais c'est la 4e, oui.
La fille a connu, et a eu donc la jeune Ahmet, Tori et Lokita. Ils reviennent en compétition. C'est un esprit de famille, c'est une tribu.
Ils ont quelque chose de ça. Ils ont vraiment envie de rappeler les camarades avec qui ils ont travaillé.
Ça, Cornel aussi.
Voilà. Et on est quelques-uns. C'est vrai que sur ce film particulièrement, on est le dernier, donc les jeunes mères. On est une sacrée tripotée à revenir, à apparaître par fidélité, par amitié et par une grande sympathie pour le scénario dont on se réserve la surprise.
Il vous fait part de à quel moment il vous en parle et vous dites tiens finalement il y a un rôle pour toi ou comment ça se passe ou c'est une fois écrit en disant ça serait bien que tu viennes faire un petit tour, comment ça se passe?
C'est différent, mais sur le dernier c'était ça. Luc, qui en plus s'avère être mon voisin presque, on se croise parfois, on mange ensemble parfois, il m'a dit il m'a parlé du projet, il m'a dit qu'il y avait un petit rôle et qu'effectivement ils avaient envie de rappeler les copains et tout, et c'est comme ça que je me suis retrouvé là.
Vous êtes au générique de la série Blood River avec Anna Moulalis, Igor Van Dessel, Anthony Hannah. Afrique du Sud, 1837, les bourgs. Finalement, ces séries-là, il n'y a plus de ségrégation entre le cinéma, la télé, les plateformes. Vous sentez une différence depuis que vous avez commencé?
Oui. Il y a un rapport qui s'est libéralisé du fait de l'expansion des plateformes, et donc il y a quelque chose d'un statut qui a changé pour les fictions dites de télévision, puisque maintenant, plateforme et télévision se mélangent, mais c'est un autre type de consommation, disons, et donc, on a, l'industrie n'a plus le même regard sur les séries, les spectateurs non plus, et de fait, nous, les artisans, participons de ce mouvement, et, ouais.
Patrice Emery, le Mumba, il en est où ce projet?
Alors c'était pas, c'est, alors le projet il inclut Lumumba, mais c'est pas un projet sur Lumumba, c'est un projet sur Mobutu, c'est l'ascension de Mobutu, et on est parvenu il y a déjà même presque 2 ans maintenant à aboutir à un scénario, parce que ça a été une longue traversée pour accoucher de quelque chose qui nous satisfaisait tous, et on est rentré en production, en recherche de financement. Et ça, c'est aussi très laborieux parce que c'est un projet de grande ampleur, qui coûte cher, de fait. Donc, ça suit son cours.
Vous êtes né à Lukasi, il y a 40 ans maintenant. Et quel lien est-ce que vous entretenez avec le continent africain?
Un lien fort. Il s'agit de mes racines. Et il se trouve que mon métier m'a permis d'y retourner à de nombreuses reprises. Alors, la chose étonnante, c'est que j'ai parcouru une grande partie de l'Afrique avant de pouvoir tourner au Congo. Donc, j'ai fait des tournages à gauche, à droite, et c'est seulement avec le film de Balogi, avec Augure, que je suis retourné au Congo. Donc, c'était un moment d'émotion particulière. Oui, je trouve que c'est important, évidemment, d'entretenir un lien avec l'endroit de mes origines, et puis il y a quelque chose de l'ordre de l'humanité, de ce principe universel de la rencontre qui me touche, et qui me touche d'autant plus que je partage de grandes racines culturelles avec le continent.
Est-ce que vous avez parfois l'impression d'être investi d'une mission, hein, un devoir de mémoire, notamment avec les bourgs, et qui parle d'un passé parfois méconnu, quoi.
Moi, je trouve une grande joie.
Dans tout, c'est enfin.
Oui, oui, bien sûr. Je trouve une vraie part d'accomplissement de mon parcours d'homme dans le fait de participer à des projets qui relèvent d'un devoir, d'un travail de mémoire, d'une dimension pédagogique, historique, c'est certain, mais ce n'est pas la seule chose qui motive mon travail. Pour autant, je trouve que précisément le cinéma ou tous les modes de narration fictionnelle ou pas d'ailleurs portent en lui cette fonction parmi d'autres, parce qu'il répond à un besoin naturel, pour ainsi dire, de combler les vides de compréhension nous-mêmes.
Finalement, les documentaires ont un pouvoir peut-être un peu plus fort pour justement dans le cadre de ce devoir de mémoire que là la fiction, mais hélas n'a peut-être pas le même public non plus, hein.
Oui, alors c'est vrai qu'à l'échelle populaire le documentaire est moins reconnu, disons, que la fiction. Alors ça dit quelque chose d'intéressant sur la psyché collective. Pour autant, heureusement que beaucoup de fictions s'emparent de sujets qui relèvent de la connaissance historique. Et c'est vrai que c'est intéressant d'observer que ça relève un peu d'un paradoxe, parce que le documentaire, du fait qu'il s'empare directement du réel, a en fait un impact très puissant. Et je trouve que quand on observe les comportements des spectateurs avec tout ce qui est télé-réalité ou même télécrochet ou les jeux, tous les télécrochets liés à la musique, à la cuisine et la télé-réalité en règle générale, ça prouve bien qu'il y a en réalité une grande attraction pour l'effet de réel. Et dans une certaine mesure, le documentaire s'inscrit, et plus encore, est le premier vecteur de ça.
Indépendant de votre rôle de jury ici dans l'œil d'eau, est-ce que dans votre quotidien vous regardez des documentaires? C'est un Vous allez sur des chaînes thématiques
Oui, oui, pour plein de raisons. Mais être visionné un documentaire pour sa qualité artistique, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Là, récemment, j'ai découvert un documentaire américain des années 90 qui avait défrayé la chronique et qui n'était pas parvenu jusqu'en Belgique, qui s'appelle Hoop Dreams, qui est quelque chose de splendide. Là, je pense à Grizzly Man que j'ai pu voir aussi récemment. Il y a des choses magnifiques. Je me souviens du moment où nous étions où je faisais partie du jury du Festival de Namur et où on avait récompensé le travail de Raymond Depardon. Le documentaire a une place très importante dans mon goût de spectateur, et sans parler évidemment de travaux de gens comme Thierry Michel, pour parler d'un éminent compatriote.
Vous parlez de musique. On peut pas finalement maintenant dissocier cinéma et musique. C'est quand même une place. On l'a vu encore avec Balogi. Vous, la musique, ça représente quoi dans votre quotidien?
La musique a une place très très importante. Alors, ça n'est certainement pas indépendant du fait que j'ai fait de la musique. J'ai eu un groupe de musique qui était une aventure expérimentale qu'on a menée pendant une dizaine d'années et qui m'a, par ailleurs, appris beaucoup de choses sur mon travail d'acteur, en réalité, et de conteur d'histoire de manière plus générale, ne serait-ce que par le fait que les deux médiums relèvent par endroits des mêmes principes dans les mouvements de narration. On parle d'ailleurs en musique de mouvement, et on parle en cinéma de la musicalité d'un récit, ou en tout cas dès lors qu'on est dans du récit. Et puis je trouve que le fait de pratiquer une discipline annexe de toute manière redonne de l'énergie dans sa discipline principale. Donc moi j'aime beaucoup à l'occasion chez moi tranquillement prendre ma guitare, pousser la chansonnette parce que ça fait résonner des choses en moi qui nourrissent mon rapport au travail d'acteur ou à l'écriture.
La présidente du jury 2025, donc de l'Œil d'Or, c'est, comme on l'a dit, Julie Cailly, comédienne, mais en même temps productrice. Ce sont deux casquettes qui sont pas courantes en Europe, finalement. Aux États-Unis, c'est monnaie courante. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler un petit peu avec elle de boulot, je veux dire, indépendamment, encore une fois, des 14 documentaires que vous avez pu visionner?
On a un rapport très sympathique. J'ai pas eu l'occasion de parler de cette double casquette. Elle m'a parlé du festival qu'elle organise, des projets sur lesquels elle est. On n'a pas parlé plus en profondeur de comment elle aborde son travail de productrice. Comme vous dites, c'est probablement moins courant en Europe, en tout cas en France, que dans le monde anglo-saxon. Pour autant, il est assez fréquent de voir des acteurs qui ont aussi un crédit de producteur dans des films dont ils sont la vedette, par exemple. Ce sont des choses qui arrivent.
Fils 2 sort le 3 septembre.
Ah bon, voilà, je l'ignorais.
Alors là, il y a du beau monde quand même, hein. Cluzet, Cain Bière, Alex Fuchs. Premier long, ça vous plaît, ça vous angoisse quand vous devez débuter avec un néophyte?
Mais ben, dans le cas de ce réalisateur, il y avait une chose très intéressante, très intrigante, très attirante, qui est le fait que il est, lui, formé au journalisme politique. En fait, il a une carrière de journaliste politique, et il se trouve que le sujet du film se déroule dans l'arène politique française. Donc c'est
à un haut niveau.
Et il s'en empare avec le ton d'une comédie. Et donc, il connaît très bien le sujet. C'est un sujet qu'il a pratiqué dans son expression, dans son application réelle, et il le transcende dans une forme fictionnelle. Donc ça, c'est un argument qui m'a attiré d'emblée. Et en plus, c'est un réalisateur très charmant.
Autre rôle dans ce film?
Alors, je suis en binôme avec Karine Viard qui est qui est une poche. Je vais pas en dire trop sur le film, mais en tout cas, dans cette grande choralité, on est je pense une petite dizaine d'acteurs qui circulent dans le film, et moi je fonctionne en binôme avec Karim.
Marc, un grand merci. Donc on rappelle, vous êtes membre du jury L'Œil d'Or, et bon travail en tant que jury, et on se retrouve bientôt.
Merci. Et vive les arbres.